Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Ils se battent contre le mal, affrontent les méchants et éliminent les vilains. Mais pour plusieurs, ces personnages en collant étaient suspects. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire. Amour, violence et censure chez les super-héros.
Cette bande dessinée met en scène une aberration sexuelle si choquante que je ne saurais même pas la nommer par son terme scientifique à la télévision. Il faut légiférer contre les bandes dessinées inappropriées. Il est possible d'encadrer cette pratique sans contrecarrer la liberté de la presse. Contactez les autorités de votre municipalité et dites-leur ce que vous pensez des crimes véhiculés dans les bandes dessinées.
Un extrait de l'émission de télévision Confidential Files diffusée aux États-Unis, c'était en octobre 1955. L'année précédente, en 1954, une commission du Sénat s'intéresse à la délinquance juvénile. Au banc des accusés, la bande dessinée de super-héros, responsable, selon certains psychiatres, du naufrage moral de la jeunesse américaine. La croisade contre les Batman, Superman et autres Wonder Woman portera fruit. Elle va aboutir à une longue censure, sans jamais nuire toutefois à la popularité des super-héros.
Batman, on commence à jouer au Batman. Comme ça, là, ça vous trouble, vous, genre, oui. Hein, Batman. Non, mais écoutez, Batman, les enfants en ont fait un héros, les adultes en profitent, du reste, ils ont pas mal d'argent avec Batman. Mais vous, Jean Paris, pourquoi vous vous intéressez à Batman?
Pour le démasquer.
Oh!
Parce que ça m'intrigue. On vit sous le signe de Batman. On a l'année Batman comme les Chinois ont l'année du singe ou l'année du chien. Alors, c'est non seulement une émission de TV, une bande dessinée, mais c'est une opération commerciale. On vend toutes sortes de choses avec Batman, voilà. Le Batmobile, le Batgun, les Batflèches, enfin, tout ce qu'on voudra.
Bat.
Alors, j'ai rencontré deux grands docteurs en Batmanologie.
À ton avis, pour quelle raison Batman a un masque avec deux petites oreilles?
Pourquoi se faire voir?
Parce qu'en réalité, quand il est dans sa maison, il ôte son masque, il est en habit normal. Mais il se fait pas voir parce que, de mon avis, il y aurait trop de gens qui le...
C'est pour pas se faire remarquer quand il se bat pas.
C'est ça. C'est pour pas se faire remarquer quand il se bat pas.
Alors, docteur Saint-Laurent, il semble que le complexe Batman est assez répandu chez les enfants. Quand vous voyez de ces enfants déguisés en chauve-souris violette, quelle est votre impression en tant que spécialiste?
Je crois que... ma réaction est que ces enfants-là font quelque chose que tous les enfants avant eux, dans toutes les générations, ont fait avant. Essayer de trouver des représentations dans le monde extérieur qui correspondent plus ou moins à leur propre fantaisie, de toute puissance, devant le danger. Batman, à mon avis, représente cela.
Les journalistes Jean Paré et Andréane Lafont à notre radio le 30 septembre 1966. Pour nous parler de l'univers des super-héros, mais surtout de l'inquiétude qu'ils ont suscité à l'époque, mon invité, Alexandre Dumas, il est historien. Il a écrit entre autres « L'Église et la politique québécoise » de Taschereau à Duplessis. Et on le joint dans nos studios à Trois-Rivières. Bonjour, merci d'être là.
Bonjour, merci pour l'invitation.
En parlant d'abord des super-héros, hein, Batman, Superman, Spider-Man, Wonder Woman, qui sont parmi les plus connus certainement, lequel a été créé en premier et surtout dans quel contexte ils ont été créés?
Alors, le premier qui apparaît, c'est Superman, qui apparaît pour la première fois en 1938. On est à une époque où beaucoup d'Américains ont perdu leur intérêt pour les cow-boys, pour la conquête de l'Ouest sauvage. Et maintenant, ce qui les passionne, ce sont les histoires de héros urbains qui se battent contre la criminalité et contre les dangers de la ville.
Et très, très vite, ils connaissent le succès. Les ventes sont vraiment spectaculaires. Hein? C'est vendu comment, dans quel format?
C'est principalement vendu dans ce qu'on appelle des anthologies. Donc, ce sont des petits volumes qui se vendent de 10 cents chacun, qui contiennent les aventures de plusieurs héros différents et des albums de 64 pages consacrés à des héros en particulier. Donc, c'est vendu à des prix très faibles, ce qui permet une très grande circulation.
Oui. D'ailleurs, on dit bande dessinée de super-héros, mais en anglais, bon, c'est comics, hein? C'est comme ça qu'on connaît donc la bande dessinée de super-héros. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en inquiète dans les années 50? Pourquoi cette BD devient suspecte et même responsable des dérives du naufrage de la jeunesse?
Alors, il faut se rappeler qu'à leur origine, les héros sont vraiment très immoraux parce qu'ils ne s'adressent pas encore à un public précisément enfant. Superman remet beaucoup la société en question. Il se bat contre des capitalistes, il se bat contre des politiciens corrompus. Batman tue ses ennemis, souvent en servant d'une arme à feu. Et surtout, on a Wonder Woman, qui est très, très loin du modèle féminin qu'on souhaite présenter à la jeunesse. Donc, une femme forte, indépendante, qui n'a pas besoin d'un homme pour la secourir. Donc, dès le départ, les héros sont vus comme un très mauvais modèle. Ce sont des personnages qui règlent leurs problèmes avec des coups de poing, toujours avec la violence. Et aussi, ce sont des histoires qui ne sont pas adressés aux enfants, mais qui sont facilement accessibles aux enfants. Des images très colorées, très, très fortes. On peut comprendre l'histoire juste en regardant les dessins. Et ce sont des phrases très courtes, très faciles à lire.
Oui. Même si, vous dites, au départ, on ne visait pas un public, on ne visait pas la jeunesse, on visait les adultes avec ça?
En fait, on visait vraiment la population en général.
En général.
Les créateurs de Superman sont deux Juifs américains qui eux-mêmes ont connu la violence, l'intimidation dans les rues de New York et qui se sont imaginés justement un personnage qui viendrait sauver les gens comme eux.
Ah oui. Et là, ben, y a un médecin psychiatre qui est extrêmement important. On aurait pu faire un épisode entier sur lui. Hein. C'est Frédéric Vertam. Alors, c'est qui, Frédéric Vertam?
Frédéric Vertam, c'est un psychiatre américain qui est né en Allemagne, donc qui a connu les années du nazisme, qui est un spécialiste de psychiatrie judiciaire, donc quelqu'un qu'on invite au procès là, pour témoigner si une personne était mentalement saine au moment des crimes. Dans les années 40 et 50, il va consacrer sa pratique à diagnostiquer et à traiter les troubles de comportement chez les délinquants juvéniles. À l'époque, un trouble de comportement, ça peut autant vouloir dire la violence, le vandalisme, que le déficit d'attention, la pratique de la masturbation ou les pratiques homosexuelles.
Et donc, lui étudie ça et il fait un lien avec la BD. Comment il parvient à faire ce lien-là?
Alors, justement, les jeunes qu'il va traiter pour des troubles de comportement ont tous un trait en commun, c'est qu'ils lisent tous des bandes dessinées de super-héros. Ils sont tous très fans. Donc, Vertam va faire le lien logique selon lui, c'est que ce sont les super-héros qui rendent les jeunes délinquants.
Oui. Il va d'ailleurs publier en 1954 un livre qui aura beaucoup de succès qui s'appelle « Seduction of the Innocent », la séduction des innocents, traduction libre ici. Un livre qui accuse l'industrie de la BD justement de tous les maux. Il dira même, et là je le cite, hein, « Hitler était un débutant par rapport à l'industrie de la bande dessinée ». On va l'écouter beaucoup plus tard, en 1981, dans un documentaire de la BBC, une discussion encore une fois au sujet de Superman.
Superman itself is the symbol of force.
Superman lui-même est l'incarnation de la force, du pouvoir et de la violence. Et cela a un impact considérable, au-delà de ce que vous pouvez imaginer, sur la jeunesse d'ici et d'ailleurs, notamment d'Allemagne. C'est impossible de dissocier les nombreux massacres qui ont eu lieu là-bas de l'esprit du personnage de Superman.
Et tout d'un quand même, on l'entend ici, puis on réfère aux origines allemandes, on l'entend même avec son accent. Donc pour lui, Superman, si je comprends bien son raisonnement, est à l'origine du fascisme en Allemagne, alors qui a pourtant été créé par, vous l'avez dit un petit peu plus tôt, deux Juifs américains.
Oui, en fait, c'est que Superman est un héros qui se place au-dessus de la justice, donc qui ne reconnaît pas forcément l'autorité d'aucun gouvernement, qui fait sa propre loi et qui l'impose toujours par la violence. Donc, pour quelqu'un qui a connu les années d'Hitler, ça peut rappeler une certaine forme d'autorité qui était supérieure à l'État et qui s'imposait justement par la force.
Ah oui. Bon, il faut dire que c'est une campagne efficace. Il est très convaincant. Ce livre aura beaucoup de succès. Puis, il donne un argument scientifique au milieu conservateur qui, eux, s'inquiètent depuis longtemps de la mauvaise influence de la BD. C'est comme s'il y avait une caution scientifique, là, maintenant.
Oui, et c'est ironique parce que la communauté médicale va complètement rejeter les thèses du Dr Vertam. On va dire qu'il n'y a absolument aucune méthode scientifique derrière son livre. Mais ce qui n'empêche pas qu'il va être reconnu dans les milieux conservateurs là, comme un éminent psychiatre qui a fait des recherches absolument fastidieuses. Et donc, on croit absolument à tout ce qu'il raconte. Lorsqu'il nous dit que, justement, les super-héros rendent violents, qu'ils rendent homosexuels, il va y avoir beaucoup de gens pour les croire et qu'il va carrément organiser des autodafés. Donc, on va acheter des bandes dessinées de super-héros simplement pour les brûler.
Ah oui, carrément. Même si, ben, vous l'avez dit, la communauté scientifique rejette ses arguments, puis l'industrie de la BD va un peu se venger aussi en la figure du psychiatre dans la BD du super-héros. Souvent, ça devient un peu un savant fou, hein, une façon donc de se venger de ce fameux psychiatre, ce Frédéric Vertam. Mais Bon, quand on dit il sera convaincant, effectivement, il va convaincre une partie de la population, une partie des élus également. On l'a entendu un petit peu plus tôt au début. Il y aura même une commission au Sénat qui va mener au fameux code. Hein, qui dit quoi, en gros, ce code-là?
Le code, c'est vraiment les éditeurs de bandes dessinées et les imprimeurs qui vont se mettre ensemble pour décider eux-mêmes quelles sont les limites qui doivent être observées quant à la présentation des bandes dessinées. Et l'objectif, c'est vraiment d'empêcher le gouvernement, ou plutôt de dissuader le gouvernement, d'imposer une censure ou de carrément interdire les bandes dessinées. Donc, ce qu'on dit en gros, c'est que les super-héros doivent présenter une vision morale de la société. Par exemple, les relations entre hommes et femmes doivent toujours se faire à l'intérieur du mariage. On doit toujours proclamer la sainteté du mariage. On ne doit pas suggérer le divorce avec légèreté. Et on ne doit surtout pas laisser entendre que c'est une option souhaitable. On ne doit jamais voir d'alcool, de tabac, de consommation de drogue. On ne doit pas utiliser d'armes à feu. Les criminels ne doivent surtout jamais être mis en valeur. Donc, ce sont des règles qui sont assez conservatrices, mais qui vont beaucoup changer le paysage des bandes dessinées.
Oui. Donc, le Comics Code Authority, hein, donc avec ses valeurs. C'est comme si on acceptait de se soumettre à ce code, sachant que ben, il risque d'y avoir une censure. C'est un peu ça. C'est l'industrie de la BD qui accepte un peu de jouer le jeu, je vais dire entre guillemets, là.
Oui, ça va être une forme de censure, effectivement. Dans le fond, tous les albums doivent être apposés du sceau du Comics Code Authority pour pouvoir être en vente dans les kiosques à journaux. Donc, on envoie les albums. Ceux qui font l'évaluation vont exiger, par exemple, qu'on dissimule une épaule ou une cuisse qui est un peu trop mise en évidence, de cacher une arme à feu ici et là, de cacher une cigarette. Et il y a beaucoup d'albums qui vont être modifiés comme ça.
Oui. Ben, la preuve en est. Un exemple ici, un agent de la censure américaine qui présente le bilan de son travail. On est en janvier 1955.
Since October 26th, when the code was adopted.
Depuis l'adoption du Code le 26 octobre dernier, notre bureau a procédé à la révision de 440 publications qui devaient voir le jour au début de l'an prochain. De ce nombre, 126 histoires ont été considérées inappropriées et donc rejetées. C'est plus de 5656 dessins qui ont été éliminés et remplacés par des illustrations conformes au code. Le secteur de la bande dessinée a subi une transformation majeure.
Voilà, on comprend sous texte, les autorités font le travail, on veille au grain. Mais de quelle façon il sera respecté ou pas, ce fameux code?
Il va être respecté parce que les kiosques vont simplement refuser de vendre les publications qui ne reçoivent pas le sceau. Donc, les éditeurs n'ont vraiment pas le choix de s'y plier et d'accepter les recommandations des évaluateurs, des censeurs.
Oui. Bon, on l'a dit plus tôt, certains s'inquiètent des comportements sexuels des super-héros ou de l'absence, dans certains cas, de désir sexuel. Qu'est-ce qu'on leur reproche exactement?
Ceux dont on va le plus parler, c'est Batman et Wonder Woman. Mm-hmm. Batman, c'est sa relation avec Robin qui dérange. Donc, le docteur Overtam dit que Batman et Robin incarnent un rêve homosexuel, une fantaisie homosexuelle. L'exemple qu'il va utiliser, c'est simplement qu'il y a deux garçons qui lui ont avoué se déguiser en Batman et Robin pour avoir leur relation sexuelle. Et Overtam explique que deux hommes qui vivent seuls avec leur domestique dans une immense maison à l'abri des regards, ça envoie vraiment un très mauvais message à la jeunesse. Robin est toujours en collant, il est presque en sous-vêtements, il est très peu habillé et il n'y a aucun adulte sain d'esprit, selon Wertham, qui obligerait un enfant à s'habiller comme ça pour aller combattre le crime. Et ce qui est intéressant, c'est que Wertham ne souligne jamais le fait que Robin, à l'époque, il a 12 ans. Donc, c'est un enfant...
Il a 12 ans, Robin? Ah oui?
Oui, Robin a 12 ans dans les premières aventures de Batman.
Ah oui.
Et ça, curieusement, ce n'est jamais souligné.
Ouais. Et bon, ça, c'est dans cette relation un peu trouble, selon lui, entre Batman et son jeune acolyte. Dans le cas de Wonder Woman, qu'est-ce qu'on lui reproche? Je l'avais dit un petit peu plus tôt, une femme un peu trop libérée, un peu trop libre, un peu trop indépendante, on suppose.
Oui, c'est vraiment, selon Overtam, un anti-modèle pour les jeunes filles qui représente vraiment tout ce qu'elles ne devraient pas vouloir être. En plus, son costume est ajusté là, pour couvrir très peu de peau. Il y a un sous-entendu homosexuel, selon Overtam, c'est que Wonder Woman, oui, elle a un ami, Steve Trevor, mais il ne joue pas un rôle très important dans ses premières aventures. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir sauver Wonder Woman. Son amour n'est pas particulièrement important. Par contre, on la voit souvent en compagnie de jeunes filles et Vertam considère qu'il y a quand même un sous-entendu homosexuel. En plus que les ennemis de Wonder Woman sont souvent des hommes, qu'elle frappe de façon très violente. Et donc, selon lui, le message que ça envoie, c'est une femme castrante qui déteste les hommes et c'est un mauvais modèle pour les filles.
Oui, mauvais modèle pour les filles. D'ailleurs, il va écrire, puis là, je le cite encore une fois, il dit que le Wonder Woman pourrait amener les filles à développer un sentiment d'infériorité, voire une peur du sexe opposé, et puis une certaine frigidité, hein, d'où la nécessité d'agir. Bon, cela dit, elle sera pas interdite, mais son physique va changer avec le temps, comme la plupart des super-héros, hein, ils sont beaucoup moins musclés au début.
Oui, effectivement, comme vous aviez dit, Wonder Woman, en fait, on va la rétrécir. Ah oui. À l'époque, elle a la même grandeur que Batman et Superman, mais après 1954, donc après l'intervention de Wertham, on va la rétrécir pour qu'elle soit plus petite que son copain, pour qu'elle soit moins intimidante pour les garçons, moins castrante. On va aussi changer son costume pour qu'elle couvre un peu plus de peau. Et quand elle est avec ses collègues de la Ligue des Justiciers, donc on la voit qui porte un tablier, elle supervise la décoration des locaux, elle fait le ménage, ce qui fait dire à son collègue Green Lantern que c'est une femme avant tout.
Oui. Bon, quant à Batman, vous l'avez dit, sa relation avec Robin, elle est suspecte. Hein? L'homosexualité serait suggérée. Et à preuve ici, Batman qui refuse les avances assez claires puis assez répétées de Catwoman. Un extrait ici.
I thought that, well, you know, perhaps we might get to know each other a little better.
I would think that we know each other well enough by now.
Don't run away, Batman. I won't bite.
I'm not afraid of you, Catwoman. You're very beautiful, Catwoman.
Yes, you're quite right. I am.
Voilà, donc elle tente par tous les moyens, mais Batman résiste. Ce qui fait dire, grosso modo, qu'un homme normalement constitué ne pourrait pas, et ce qui suggère, bien sûr, l'homosexualité. En fait, c'est ou la sexualité ou le fait qu'il soit asexué qui dérange la plupart du temps, non?
Oui, bien là, l'extrait que vous avez passé, évidemment, c'est sur la série avec Adam West dans les années 60,
oui,
qui tablait vraiment, là, justement, sur ses blagues sur l'homosexualité de Batman et Robin. Dans la bande dessinée, au contraire, Batman était attiré par Catwoman, et c'est ce qui dérangeait le Dr. Vertam et les conservateurs. C'est qu'on montrait un super-héros qui était attiré par une criminelle. Et ça donnait un mauvais exemple. C'est la raison pour laquelle le personnage de Catwoman va complètement disparaître de la BD en 1954, et elle va y revenir seulement au milieu des années 60. Elle va être remplacée par Batwoman, une super-héroïne complètement incompétente. C'est une caricature horrible. Batman cache ses gadgets dans sa ceinture, elle dans une trousse à maquillage.
Ah oui.
Elle a souvent besoin de se faire sauver et Batman ne rate jamais une occasion de lui rappeler que combattre le crime n'est pas le rôle d'une femme. Les enfants de 12 ans sont beaucoup plus qualifiés.
Ah oui, tout à fait. Donc, elle nuit, en fait, à la cause. Elle est un peu présentée comme un boulet. Hein? Ben justement, on va l'entendre. Ça, ici, c'est assez... c'est tiré d'un disque qui est complètement déjanté, complètement psychotronique. On est vraiment dans l'esprit déjanté des années 60. C'est un disque, donc, québécois, non identifié dans nos archives. C'est Batman, lors d'un rendez-vous galant, justement, avec Batwoman, qui décide de l'épouser le soir même et qui l'annonce à Robin de retour à la maison. Et lui est complètement défait. C'était donc à notre radio, janvier 1967, donc tiré d'un disque non identifié. On écoute.
Bruce sent pas mal les prix de Cathy. Diable, s'il fallait qu'il tombe en amour et veuille l'épouser. Qu'est-ce qu'il arriverait à notre association? Imaginez un peu. Bruce Wayne marié à Cathy King. Mais ça ne peut pas arriver.
Et le temps passe, puis soudain...
Dick, réveille-toi, nous avons quelque chose à te dire.
Hein, quoi? Bruce? Cathy?
Dick, j'ai finalement fait comprendre à Bruce comme il était seul dans la vie et il m'a proposé le mariage.
Eh, puisque Cathy a dit oui, nous n'avons pas voulu perdre une minute. Nous nous sommes mariés ce soir. Nous avons voulu que tu sois le premier à le savoir.
Vous êtes marié? Réellement marié?
Oui, Dick. Regarde mon alliance.
C'est vrai. Vous êtes marié? Mais qu'est-ce qu'il va arriver de moi? Je veux dire de nous.
Oh, Dick, à partir d'aujourd'hui, je serai comme une mère pour toi.
Bon, ça ne s'invente pas. Ça a été diffusé à notre radio ça en 1967. Je rappelle, tiré d'un disque. On dit un disque canadien, un Batman canadien, mais disque non identifié. On n'a pas le titre, malheureusement. Mais on comprend que Bruce, et là, corrigez-moi si je me trompe, Bruce, c'est Batman, Dick, c'est Robin, et Cathy, bien sûr, c'est Batwoman.
C'est bien ça.
Bon. Alors voilà, ça, évidemment, c'est pas la vraie histoire, mais c'est celle réinterprétée ici. Il advient quoi du fameux code? Il se passe quoi dans les années 60, 70, 80 avec ce fameux code adopté dans les années 50?
Alors, le code, c'est l'autorité absolue dans les années 50 et 60. En 1970, il se passe un événement qui va l'affaiblir beaucoup. C'est la publication d'une histoire de Spider-Man, qui est une histoire qui parle beaucoup de consommation de drogue, parce que l'objectif de l'auteur, c'était vraiment de décourager la consommation de drogue chez les jeunes. Et donc, le code va refuser d'apposer son sceau parce que, je l'ai dit, on n'a pas le droit de parler de drogue dans une bande dessinée. Et donc, le Marvel, l'éditeur, va décider simplement de publier l'album même sans le sceau. Et les distributeurs vont l'accepter. Et non seulement ça ne fait pas scandale, mais l'histoire va être très bien reçue justement comme une façon d'empêcher la consommation de drogue chez les jeunes. Le maire de New York va féliciter l'auteur pour son initiative. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment que le code n'est pas aussi fort qu'on le pense. Il va devenir de plus en plus un outil de consultation plutôt qu'une vraie forme d'autorité. Le code va s'assouplir en espérant que ça lui permette de survivre, mais il va perdre de plus en plus de plumes jusqu'à disparaître complètement là, dans les années 2000.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit Marvel ou autre, on a des super-héros de tout genre, y compris ouvertement homosexuels aujourd'hui. Là.
Oui, absolument. Et ça, c'est une polémique qui n'est toujours pas terminée parce que encore récemment, il y a des super-héros comme Superman qui a annoncé qu'il était en fait le fils de Superman
fils,
qui est maintenant...
Ça, oui.
Bisexuel, et ça a fait énormément réagir aux États-Unis, jusqu'à Fox News qui y voit de la propagande démocrate et une façon de répandre les maladies vénériennes chez les adolescents.
Donc c'est un peu quand on se pose la question, qu'est-ce qui en reste de ce fameux code ou qu'est-ce qui reste de tout ça, de cette époque? Ben, c'est un peu ça, aujourd'hui encore, là.
Oui, effectivement, la polémique, elle continue encore aujourd'hui et même jusqu'ici, ce n'est pas circonscrit aux États-Unis. Dans le Journal de Montréal, entre autres, on a dit que justement, cette bisexualité de Superman, c'était de la propagande woke. Mais pour bien montrer là, à quel point les super-héros ont de la difficulté à introduire l'homosexualité, le premier super-héros gay qui apparaît en 1988, qui s'appelle Extranio, c'est un magicien super-héros qui est vraiment une caricature d'homosexuel. On pourrait le comparer un peu à Jean-Loup dans La Petite Vie. C'est un personnage qui est très coloré, qui est très flamboyant, qui s'appelle lui-même Auntie, donc ma tante.
Ma tante, ah oui.
Et il ne restera pas longtemps parce que l'éditeur ne voulait pas de personnage homosexuel et il va demander à l'auteur de guérir son personnage s'il veut le garder. Parce qu'on se rappelle que l'homosexualité a longtemps été considérée comme une maladie mentale. Mmh, et l'auteur, plutôt que de guérir son personnage, va le tuer. Et pour bien montrer que c'est resté une caricature jusqu'au bout, il va mourir du sida.
Ah oui, carrément. Et là, pourtant, on parle pas des années 50, on parle ici de 1988. Alors, comme quoi ça a bel et bien évolué, ce monde des super-héros qui demeure encore aujourd'hui extrêmement populaire. Hein, Marvel, les franchises Marvel qui sont multimilliardaires. Mon invité, Alexandre Dumas, historien. Il a écrit, entre autres, « L'Église et la politique québécoise » de Taschereau à Duplessis. Il nous parlait depuis nos studios à Trois-Rivières. Merci beaucoup. Merci, Alexandre.
Merci.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.